I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux, c'est beau, mais ne m'écoutez pas, je ne sais pas encore de quoi je parle. Salut les amis.
Ça va?
Ça va. Bah, on dit bonjour à nouveau à notre camarade de l'humanité, Emilio Mellet. Merci, Emilio, d'être avec nous.
Camarade de l'humanité.
Bonjour, Emilio.
Vous allez être obligé de me supporter un deuxième épisode.
Oh. La semaine prochaine, on fait quelqu'un du Figaro pour...
Et bah, bon courage. C'est Eric Neuhoff qui va venir.
Je viens de prendre conscience de ce que... du sens de mes mots.
Si Eric Neuhoff nous écoute, on l'embrasse. d'ailleurs...
Non.
Emilio, j'ai une question pour toi. Question un peu complexe. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une femme?
Absolument pas.
Une femme, Emilio, c'est quelqu'un qui t'attend à la maison. C'est la douceur, la compréhension. Tu rentres, elle ouvre la porte, elle joue du piano, de l'harpe. T'es chez toi. Celle-là, elle sait même pas me faire un œuf à la coque et je la suis au bout du monde. Tu comprends quelque chose, toi?
Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca, j'ai dit Philippe de Broca, merci, me dit, tu as besoin de changer d'air. Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi. Je l'homme charmant, distingué, joli garçon. Tout à fait pour moi. Il m'a dit, tu pourras te reposer, ça te fera le plus grand bien.
Ce dialogue un peu vieillot sur le fond quand même provient de L'Homme de Rio, évidemment de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Françoise d'Orléac et Adolfo Celli sur un scénario signé Ariane Nouchkine et Jean-Paul Rapneau. Avant de parler de L'Homme de Rio, de leur situer dans la carrière de Belmondo et dans l'histoire du cinéma français, et puis de parler du film, il faut peut-être quand même faire un petit rappel sur qui est Philippe de Broca, et pour ça je vais me tourner vers toi, Simon.
Ah ben je suis content, j'ai pas vérifié mes dates. Philippe de Broca... Non mais alors Philippe, donc du coup je vais y aller un peu avec mes tripes, je vais mettre ma peau sur la table. Philippe de Broca, c'est un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma et de l'histoire du cinéma français, a fortiori.
On est bien d'accord.
Et c'est important de le dire et de commencer par ça. Je me rends pas compte, vous, autour de cette table, mais moi je peux dire, j'ai 37 ans, quand j'ai fait mes études supérieures et notamment mes études de cinéma, Philippe de Broca, c'était un peu cracra. Fallait pas trop en parler, c'était du cinéma popu, vulgaire, c'était bon pour le dimanche soir de France 2, voire de France 3, et c'était certainement pas du grand cinéma. On pouvait à la limite tolérer que les enfants s'amusent devant, et c'était bien tout. Et c'est un truc qui est dramatique, qui est très triste, parce que, et je le dis pas du tout pour taper sur la Nouvelle Vague, parce qu'il y a des choses qui me passionnent dans la Nouvelle Vague, et puis qu'on n'est jamais responsable du fait qu'il y ait une espèce d'engouement médiatique, académique, autour de son travail qui éclipse celui des autres. C'est pas la faute de la Nouvelle Vague si elle a été la Nouvelle Vague. Néanmoins, après le cinéma de Broca, parce que le cinéma de Broca, ça n'est pas que celui dont on va parler maintenant, ça n'est pas qu'un cinéma aventureux, c'est plein d'autres choses. Ce qui est un peu terrible, c'est que voilà, lui qui a été un de ces artistes, j'ai envie de dire noble, parce que rassemblant des formes et des codes populaires, communs, collectifs, et un niveau de créativité, d'exigence qu'on associe plutôt d'habitude, on va dire, au cinéma d'auteur ou aux arts dits nobles ou, ou au grand art, à l'histoire de l'art. Ben voilà, de Broca, c'était tout ça. De Broca, c'est aussi un cinéaste qui a été d'une grande versatilité, parce que c'est un grand réalisateur de films d'aventure. L'Homme de Rio, dont on va parler aujourd'hui, c'est un pur film d'aventure. On l'a souvent, et à raison, décrit comme une des seules véritables adaptations, transpositions, inspiration de Tintin au cinéma. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait légitime. De Broca, il aura travaillé un petit peu dans tous les genres, donc dans le film d'aventure, dans la comédie, avec des titres aussi fins que Un monsieur de compagnie ou Le plus vieux métier du monde. Mais c'est aussi l'auteur de films absolument sidérants comme Le roi de cœur, qui est, on pourrait dire, une escapade carolienne dans un village en pleine Seconde Guerre mondiale dont les fous ont été libérés. Notamment, les portes de l'asile ont été ouvertes et on va suivre, d'ailleurs c'est la Première Guerre mondiale, on va suivre un soldat britannique qui erre dans ce décor carolien. bien, qui paraît sorti d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un film qui a eu un énorme succès aux États-Unis, vraiment énorme, qui est un film culte là-bas. Enfin, en gros, vous risquez pas de faire vos études de cinéma aux États-Unis sans entendre parler du Roi de Cœur. Pour eux, c'est le plus grand film français de tous les temps. Ça a été un bide en France, il est parfaitement inconnu. Voilà, il y a beaucoup de merveilles, de chefs-d'œuvre, que ce soit Le Diable par la queue, Cher Louise, Le Magnifique, L'Incorrigible, Tendre Poulet. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'aime beaucoup Tendre Poulet.
Bref, Bossu.
Le Bossu, oui.
Que je tiens pour être le plus grand film de KPDP français.
Ah, mais qui
est vraiment, si vous avez aimé Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, regardez Le Bossu, vous comprendrez pourquoi c'est pas si bien.
Exactement. Mais c'est un cinéaste à la carrière, j'ai envie de dire, épique dans le sens le plus évident et premier du terme, un technicien de folie. Il a également réalisé Cartouche, autre, alors film d'aventure tragique qui épouse la grande histoire, l'histoire d'un bandit de grand chemin dans les dernières heures de la royauté française, si ma mémoire est bonne.
À peu près, oui, c'est ça.
Ouais, ou juste avant.
Dans les années 1760. Hein, donc voilà, vraiment ça. Pas longtemps avant
que
ça pète.
Voilà, c'est ce que j'entends par les dernières années. On n'est pas en 88, mais voilà, on n'est pas dans le bas Moyen Âge. Voilà, tout simplement, c'est un auteur passionnant qui est d'une créativité, d'une inventivité, d'une technicité absolument hors norme. On le verra avec L'Homme de Rio dont on va parler aujourd'hui, mais c'est dur de ne pas trouver dans chacun de ses films au moins une séquence où on est un peu sidéré par la fluidité avec laquelle il va mettre plusieurs scènes dans un seul plan. La caméra va se balader. Là, vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai en scène, une séquence de cartouche où, après avoir déjà cartouché pas mal de bourgeois, nos amis les brigands sont en train de décorer et d'installer leur repère. Et la caméra va suivre Belmondo qui passe au milieu des dorures, des coffres, des gorgeons d'or, qui va s'attacher à un candélabre, être monté jusqu'à un premier étage. Et puis, on va le suivre. Et là, il va se mettre à dialoguer avec plusieurs personnages d'affilée. Tout ça en un plan unique. C'est pas seulement des plans séquences, c'est à nouveau plusieurs scènes, plusieurs petites scènes à l'intérieur d'un même plan. C'est quelque chose que va réutiliser Spielberg beaucoup dans son cinéma. Bref, ce que je veux dire, c'est que le cinéma de De Broca, il est virtuose, il est virevoltant, il est incroyablement partageur et généreux. Vous pouvez le découvrir à 10 ans et rester comme les yeux comme deux ronds de flanc, ça n'a aucun sens. Bref, montrez-le aux enfants, c'est super. Vous le redécouvrez adulte, c'est incroyable. Et puis quand vous êtes vieux, une fois que vous avez perdu la mémoire, vous allez le redécouvrir, c'est très bien aussi. Non, franchement, voilà, De Broca, c'est un immense réalisateur qu'on recommence seulement, je dirais, depuis un peu moins d'une dizaine d'années à remettre à sa place, à qui on commence à redonner ses lettres de noblesse. Et il était temps, et il était d'autant plus temps que j'en terminerai par là. Il y a effectivement une certaine injustice dans le fait que ce soit le cinéma de la Nouvelle Vague et post-Nouvelle Vague qui a un peu balayé sa mémoire immédiate. Il y a une vraie injustice là-dedans, parce que quand tu regardes L'Homme de Rio, alors bien sûr, c'est cinéphile à plein d'endroits, mais il y a déjà une liberté dans la mise en scène, dans le découpage, qui annonce et accompagne la Nouvelle Vague. Et de voir qu'il a quand même été oublié, c'est d'une ironie que je trouve assez, assez mordante.
Oui, parce qu'il faut faire un petit rappel strictement temporel, parce que évidemment, le démarrage le plus spectaculaire, le moment où la Nouvelle Vague s'enclenche et devient vraiment une école de cinéma, c'est avec Les 400 coups de François Truffaut et juste après À bout de souffle de Godard, avec Belmondo. Mais quand L'Homme de Rio sort en salle, Belmondo n'a pas encore tourné dans Pierrot le fou, qui tournera l'année suivante, toujours pour Jean-Luc Godard. Donc on est vraiment au début de la Nouvelle Vague, et c'est un des aspects les plus intéressants du film, c'est qu'on a un film de divertissement populaire, biberonné de multiples influences, et évidemment de certaines influences américaines, avec comme acteur principal celui qui est à l'époque le visage de la Nouvelle Vague et du cinéma d'auteur français. Emilio, toi, je pense que tu es peut-être celui qui a le plus de réserves sur le film, de ce que j'ai pu comprendre.
Et encore, c'est léger. Hein.
Qu'est-ce qui t'emporte quand tu regardes ce film aujourd'hui ?
Je trouve que c'est un film qui est hyper généreux. La référence à Tintin, elle est clairement là, puisqu'on c'est un film qu'on regarde comme on lit une BD. On passe de case en case, c'est d'une fluidité sublime, et c'est vraiment composé, en fait, comme des cases de BD. Jusqu'à l'attitude aussi de Belmondo, qui est à la fois entre le personnage de BD, le théâtre et l'acteur de cinéma. Il est au top de sa forme. Il faut le dire, Belmondo, à l'époque, il a 30 ans.
Il est à son prime.
On est en 63. C'est mon instant gauchiste. Il était président de la CGT Acteurs.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais.
J'avais complètement oublié, c'est vrai.
Je l'ai redécouvert à sa mort. Mais voilà, et c'est un Belmondo gaguesque. Moi, c'est surtout lui qui m'emporte dans ce film, qui est aussi fait par les meilleurs de l'époque. Tu as cité une partie de l'équipe, mais Simon a retracé la carrière de Broca. Mais on a Ariane Nouchkine quand même au scénario, avec Jean-Paul Rapneau. À la musique, c'est Georges Delerue. Ouais. Ben, c'est quand même. Il y a Françoise d'Orléac qui joue le premier rôle féminin. Ben,
c'est le film qui a fait d'elle une star, d'ailleurs. C'est le film qui l'a fait exploser. Et pas Les Demoiselles de Rochefort, qui est sorti plus tard.
Enfin, tout ça fait que c'est une petite pépite. Après, ma seule et unique réserve, c'est que je trouve un poil long et répétitif dans sa deuxième moitié. J'ai l'impression de revivre quelques scènes sur le même schéma de presque jeu vidéo, là, en l'occurrence, de presque Uncharted, en fait.
Ah oui, complètement, ouais. Ouais, ouais.
Ça m'ennuie un petit peu, mais ça m'ennuie un quart d'heure, quoi.
Mais le film, c'est bien, tu vois, j'avais pas du tout pensé à ça, mais la séquence d'action, on en reparlera, hein, la séquence d'action sur les toits des immeubles en construction à Brasilia, c'est vraiment un jeu de plateforme, en fait, avant l'heure. Et j'avais jamais capté, t'as bien fait de relever ce point-là. Pour ce qui est de Tintin, il faut préciser que le film, dans son écriture, s'inspire d'au moins 9 albums pour des inspirations plus ou moins directes. Le plus évident, c'est L'Oreille Cassée, le 6e tome de Tintin qui est sorti en 1937 et qui tourne déjà autour de l'idée qu'une idole est volée dans un musée, on va pourchasser ceux qui ont volé l'idole et partir au fond de la jungle, ce qui est grosso modo ce qui se passe dans le film, pour résumer très grossièrement. Françoise d'Orléac travaille au Musée de l'Homme à Paris, elle est donc la petite amie de Jean-Paul Belmondo qui est un soldat en permission. Elle est kidnappée parce que des brigands cherchent à mettre la main sur des idoles au secret apparemment très intéressant. Et du coup, Belmondo se lance à leur poursuite. Il se retrouve au Brésil. Et le film est une succession de péripéties non-stop. Mais il faut préciser aussi que De Broca, il a été envisagé pour faire un film Tintin. Il devait faire Le Mystère de la Toison d'Or en 61, film qui s'est avéré complètement dispensable artistiquement parlant. Et De Broca a donc lâché l'affaire. Évidemment qu'il a certainement remis une partie de son travail de préparation dans L'Homme de Rio. Arthur, toi, c'est un film qui te plaît, je crois, aussi.
Ouais, et c'est marrant parce que moi, c'est un film que j'ai découvert vraiment avant-hier. Et donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Je vois le film et je me dis effectivement, ah, mais cette scène avec les hydravions qui s'amènent dans la jungle, c'est clairement le cigare Tintin.
Ouais,
le cigare,
enfin,
tu vois. Et en même temps,
je suis en train de réaliser que la moitié des albums de Tintin ont des titres qui pourraient être des pornos.
Oui, tout à fait.
Oui, oui.
Mais vraiment.
Les cigares du pharaon, tout particulièrement.
Mais et donc j'ai ce rapport-là parce que tu m'avais dit que c'était un film Tintin, qu'au départ il devait faire un Tintin, donc je me dis ah ouais effectivement il y a vraiment des cases. Et je dis ça alors que moi-même je suis pas un grand spécialiste de Tintin, mais quand même ça saute aux yeux. Mais c'est surtout moi ce qui m'a frappé, c'est l'influence qu'il a eu derrière. Parce que je regarde ça, je fais ah ouais donc en fait c'est Indiana Jones en fait.
Ouais,
et puis donc là
c'est le film qui a le plus influencé Spielberg.
Et ils sont en train de bouger 3 statuettes pour avoir un ouais donc c'est clairement le 5e élément en fait. Et tout est comme ça en fait, le film est hyper riche. Et ce qui est frappant aussi, c'est que on connaît Bebel comme étant une star des cascades. Il ne l'est pas encore à l'époque où il le fait. Et j'avais en tête moi un autre film que j'ai découvert il y a pas très longtemps, Peur sur la ville de Henri Verneuil, où là c'est vraiment le grand Bebel.
Qui sort 10 ans plus tard.
Dix ans plus tard, sur le toit du métro, machin. Et en fait, quand on compare les deux, on se dit ok, donc en fait il y a la même prise de risque, qu'il y en a un où c'est la comédie d'action d'aventure comme on n'en fait plus. Enfin, pardon Fifi, mais c'est vrai. Et d'un côté, Peur sur la ville, qui est la version dramatique, difficile. Mais les deux sont hyper impressionnants. Et les deux, le parallèle entre les deux fonctionne vachement bien. Parce que là, t'as quand même Bebel, il fait des trucs. Mais des fois, je regardais mon écran, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est vraiment suspendu. Et puis tu dis, mais on est en 64, tu peux pas effacer numériquement
non, et il fait toutes les cascades
câbles,
sauf une. Il n'y en a qu'une qui fait pas, c'est le parachute.
Ouais.
C'est l'avion. Okay. Voilà, sinon, il fait tout sans protection.
Mais même la scène du parachute, c'est-à-dire que tu as vraiment la caméra qui est posée avec le cadreur dans l'avion. Et puis tu vois le gars qui tombe. Et après, il le filmait en mode hélicoptère au loin. Tu vois la personne qui tombe, tu te dis, mais ça, en fait, ce qui est fou, c'est que je ne suis pas le plus nostalgique de la bande. Je ne suis pas le plus à dire, c'était mieux avant quand on n'avait pas des effets spéciaux ou quoi. Mais putain, de voir que c'est réel. Et pas réel Tom Cruise.
Disons
qui
c'était
saute
pas mieux, mais c'était bien quand même.
Non, voilà, je veux pas avoir une posture de vieux con là-dessus, mais tu vois, c'est un peu ce que disait Alexis sur le dernier Mission Impossible. Tom Cruise, il fait ses cascades, mais quand il saute d'une falaise, bah en fait, il y a une rampe numérique et en fait, il saute pas vraiment de la falaise. Moi, c'est pas un truc qui me gêne, mais c'est vrai. Là, putain, Bebel, il fait des trucs, mais vraiment, j'étais devant mon écran en disant, mais gars, mais qu'est-ce que tu fais? Et comment tu fais ça? Notamment la scène où il est accroché à la fenêtre là sur les immeubles, mais tu te dis, mais. La dangerosité de ce qu'il fournit, mais ça va de pair avec l'aspect, et c'est ça qui est jouissif avec les Tintins et autres, c'est qu'en fait, dans la BD, c'est figé, donc il n'y a pas de risque, entre guillemets, mais l'action, du coup, elle est quantuplée par rapport à ce que peut fournir le cinéma, parce que le cinéma n'est qu'artifice. Et là, du coup, d'avoir le mélange des deux.
La scène où Belmondo passe par une lucarne et longe une corniche
oui,
exactement, d'immeuble, ouais, pour rentrer dans une autre pièce, ça vient. Tel quel d'une bande dessinée de Tintin qui est Tintin en Amérique, où il fait ça sur la façade d'un immeuble à Chicago parce qu'il y a des bandits qui sont dans sa chambre.
Et tu vois, je crois que c'est peut-être cette cascade qui m'a le plus impressionné.
Alors, évidemment, il va falloir qu'on parle des cascades parce que déjà, c'est l'enjeu esthétique numéro un du film. Enfin, la mise en scène de Broca, elle est intégralement dédiée à la mise en scène des cascades et c'est une mise en scène qui est finalement pas très éloigné de celle de Claude Sauté dans L'Arme à gauche dont on vous parlait il y a pas très très longtemps. C'est une mise en scène qui est extrêmement précise mais extrêmement sobre. C'est pas un cinéaste qui va faire des grands morceaux de bravoure filmique, ce qui fait qu'on peut presque avoir l'impression qu'il y a pas de mise en scène au sens artistique du terme. Ouais. On a juste affaire à un artisan très talentueux, hein, mais un simple artisan. Et je pense pas. Je pense qu'il y a, il y a une vraie. Déjà, il y a un sens du tempo dans le découpage de De Broca qui est extraordinaire, parce qu'il faut réussir à capter la tension de ces séquences-là, et en même temps, il faut réussir à capter leur énergie. Et en plus, Belmondo, c'est un corps qui est particulier. C'est une espèce de grand dégingandé, un peu maigrichon, musclé à la fois. C'est un corps de cinéma qui est particulier. Il faut réussir à le saisir, notamment la scène de bagarre dans le bar, où peut-être t'as 40 mecs qui se tapent sur la tronche. Tu pourrais te dire, ça, normalement, ça part en freestyle. Tu comprends rien à ce qui se passe, c'est infilmable. Et c'est parfaitement chorégraphié, parfaitement filmé, et en plus la scène est super drôle. Donc vraiment la mise en scène tourne autour des cascades, donc il va falloir qu'on approfondisse là-dessus. Tu voulais dire un truc aussi, Simon?
Ben oui, mais j'allais dire, elle tourne autour des cascades, peut-être qu'elle tourne encore plus autour du corps de Belmondo.
Ouais.
Et parce que je repense aussi à ce que tu disais, Arthur, sur Peur sur la ville, où effectivement c'est plus dramatique, mais c'est aussi un corps plus âgé, plus empesé, donc qui n'a pas la même gravité. Là, ce qui est génial dans le film, et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, alors c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais je veux dire, c'est une tonalité qui n'est pas recherchée, quoi. Peut-être parce que ce serait pas à la mode, j'en sais rien, mais c'est la légèreté. C'est un corps virevoltant, c'est quasiment un corps élastique. Ouais. Et ça, c'est très rare. C'est-à-dire que, oui, c'est des cascades, elles sont impressionnantes, il n'y a pas de doute, elles sont même un peu sidérantes. Mais lui, t'as l'impression qu'il prend un plaisir à le faire, qu'il y a un enjeu de réussite, de performance dans le sens joyeux du terme, tu vois, pas de performance. Et puis, c'est pas une performance grave, je veux dire, c'est pas John Wick, tu sais pas s'il pleut ou s'il pleure, mais qui a toujours la gueule trempée, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est là, allez hop, on y va, les petits loulous. Et qui arrive même à relire certaines idées, certains concepts de cinéma à l'aune de quelque chose de plus lumineux. T'as toute une séquence qui fait évidemment penser à, j'ai toujours un doute sur le titre, je le confonds suivant, L'homme qui en savait trop de Hitchcock, où il est poursuivi en bagnole dans un décor un peu ocre, sablonneux. Je crois que, parce que j'ai pas revu le film pour l'émission, il y a des immeubles ou la ville, en tout cas il y a un décor urbain au loin. Ça y fait quand même beaucoup penser, sauf que c'est super vif, super marrant.
La mort aux trousses, peut-être.
La mort aux trousses, oui, voilà. Je confonds toujours la mort aux trousses et L'homme qui s'en savait trop. Voilà. Enfin, les titres. Donc,
Emilio, toi, sur les cascades.
Les cascades, je les trouve absolument phénoménales. C'est effectivement le cœur du film. Mais en fait, d'un point de vue de mise en scène, ce qui m'intéresse plus, c'est presque tous les moments qu'il filme où il n'y a pas de cascade. C'est peut-être ceux-là que je trouve les plus intéressants, parce que c'est ceux qui rendent le spectateur actif par des jeux de cadre. En fait, il arrive à jouer avec le premier, le second plan assez régulièrement, c'est pour créer aussi des effets comiques qui, je trouve, fonctionnent extrêmement bien. Je pense notamment à une scène, c'est la scène où il se trouve en haut d'une colline, il manque de se faire buter. Et il cherche la voiture qui s'enfuit. Et en fait, on se rend compte avant lui, avant Bebel, parce que le spectateur a toujours un temps d'avance sur lui, qu'il y a un mec derrière qui tient une longue vue. Et en fait, on pense avant lui à ce qu'il va faire. Et ouais, je trouve que ça renforce le tempo comique. Et toutes ces scènes qui ne sont pas des cascades, en fait, elles sont aussi bien mises en scène.
Ah oui, oui.
Parce qu'on sent que De Broca sait que le cœur de son film, c'est Belmondo et que ce sera les cascades. Mais pourtant, il pense quand même à ce qu'on ne s'ennuie pas le reste du temps. Et à ce qu'en fait, on passe notre temps à balayer l'écran avec nos yeux pour essayer de dénicher, comme dans une case de BD en l'occurrence, des petits détails à droite ou à gauche.
Ça repose à 100% sur la profondeur, en fait. Et ce qui est vraiment l'élément esthétique basique de la bande dessinée. Parce qu'une bande dessinée, il y a du montage, de fait, puisqu'il y a une suite de cases comme sur une pellicule, mais il n'y a pas de mouvement. Donc si on veut qu'il y ait un mouvement, il faut que ce soit celui du regard du lecteur, et donc on joue sur les niveaux de plan, ouais, en fait, sur les niveaux d'image. De Broca le fait beaucoup dans le film, y compris dans les scènes de cascade qui sont souvent assez ouvertes, notamment le moment mythique où Belmondo passe sur un filin entre deux immeubles en construction à Brasilia, et où le plan est cadré de sorte à ce qu'on ait une vraie profondeur et une grande ligne de fuite, alors qu'il aurait pu choisir de filmer avec la façade derrière, ce qui aurait certainement rendu la scène moins impressionnante.
Ça aurait tout écrasé en termes de perspective.
Exactement. Là, on voit la ville qui s'étend, et surtout, on voit le vide.
Mais de la même manière, quand il escalade, il essaie de passer d'une fenêtre à l'autre, on pourrait le filmer, lui, de dos, avec l'immeuble en plein pot. Non, il le filme de profil pour qu'on voit bien et la plage, et la longueur, et la hauteur, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on réalise un peu ce qu'il est en train de faire, mais c'est le cas pour à peu près toutes les cascades, en fait.
Bien sûr. Alors, il faut parler du chorégraphe cascade qui s'appelait Gilles Delamarre, qui est un très grand cascadeur français qui, malheureusement, s'est tué dans un accident sur un tournage l'année suivante, dans un film de Christian Jacques qui s'appelle Le Saint prend l'affût, que j'ai pas vu, une adaptation donc des aventures de Simon Templar avec Jean Marais. Et en fait, il roulait en décapotable, la décapotable s'est retournée, il est mort sur le coup. Et Gilles Delamarre, donc, a travaillé avec Belmondo sur le film. Comme tu le disais, Mio, la seule cascade que Delamarre a exécutée lui-même en lieu et place de Belmondo, c'est le saut en parachute. Et il y a un élément que moi qui m'a beaucoup perturbé la première fois que j'ai vu le film dans le découpage, parce qu'encore une fois on l'a dit, hein, le découpage de Broca il est chirurgical. Il y a ce moment où donc Belmondo est à Brasilia, la capitale du Brésil, qui à l'époque en plus est encore en construction, donc c'est une ville qui n'existe pas, quasiment pas en fait, c'est du sable aplani à perte de vue avec quelques immeubles qui commencent à pousser comme des champignons, mais il n'y a presque pas d'habitants.
Ouais, c'est les immeubles de Niemeyer quand même, l'architecte brésilien.
Bien sûr, bien sûr, hein, c'est des immeubles qui ont de la gueule, mais qui, la ville n'est pas encore terminée. Moi je suis allé regarder sur internet après à quoi ça ressemblait Brasilia aujourd'hui, et c'est fou de se dire qu'ils ont réussi à capter ça, quoi. C'est que vraiment c'est un chantier de la taille d'une ville, d'une capitale, quoi.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Absolument dingue comme truc. Donc Belmondo est poursuivi par des voyous pendant tout le reste du film, et il grimpe en haut d'une tour en espérant pouvoir les semer, et il s'approche du bord, la planche sur laquelle il est se casse et il tombe et se rattrape à la force des mains au rebord de l'immeuble. Et à ce moment-là, il y a une coupe que je trouve hyper brutale, parce qu'en plus, les deux plans raccordent pas très très bien, le mouvement n'est pas très bien raccordé. Et je me souviens que la première fois que j'ai vu le plan, je me suis dit, ça m'a sauté vraiment aux yeux parce que tout le reste du film est parfait. Et là, je me suis dit, wow, pourquoi cette coupe, elle est complètement à côté de la plaque? Bah, tout simplement parce qu'ils ont dû refaire un plan de coupe, parce que la chute n'était pas prévue. C'est un vrai accident. C'est-à-dire que Belmondo a mis le pied trop loin, tout s'est cassé la gueule et il s'est rattrapé à la force des mains. S'il s'était pas rattrapé, il faisait 90 mètres de chute. Et c'est dans le film.
Oui, donc tu vois Tom Cruise qui se casse la jambe en sautant. Bon.
Bah déjà, c'est surtout que bon, Tom Cruise se pète la jambe. Bravo à lui pour son implication physique. Il faut pas oublier effectivement que Tom Cruise, il y a de la sécu partout. C'est-à-dire que quand il fait le saut au-dessus de l'immeuble, où effectivement il fait un saut très impressionnant, aidé par des poulies et des câbles de sécurité, donc il se casse la jambe, c'est le grand max qui puisse lui arriver à ce moment-là. En plus de ça, les petits fondus des effets spéciaux remarqueront dans certains Missions Impossibles, notamment le 4, qu'il y a du remplacement de visage numérique parce que c'est pas toujours lui.
Quoi ?
Quand il sort de quand il y a la scène de tempête de sable à Dubaï et quand il sort de l'immeuble en courant, c'est pas lui. Voilà, tu feras attention, mais tu vois.
En vrai, il sait pas courir.
Son visage bouge pas. Non, mais en fait, surtout ce qui est terrifiant en fait quand tu regardes les films de Belmondo de l'époque, c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas de sécurité et que tout se passe devant la caméra, il se plante, il meurt, et en fait, à part Jackie Chan à Hong Kong, je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma d'un point de vue physique, quoi.
Mais c'est lui qui a inventé en réalité la figure du héros, qui a réinventé la figure du héros d'action. Ouais. En fait, je me rappelle avoir découvert ça au moment de sa mort, d'avoir écrit un petit papier à ce moment-là sur Belmondo, star international, parce que c'est vraiment ce film-là qui le fait devenir une star, parce qu'en fait, il cartonne aux États-Unis grâce à Robert Kennedy, blablabla. Mais en fait, Belmondo, il est Bruce Willis et Tom Cruise avant l'heure. On a souvent dit que c'est Bruce Willis qui, avec les Die Hard, avait réinventé ce héros d'action avec un corps qui était différent de la dérision, un héros faillible qui pouvait prendre des coups, qui pouvait saigner, être avec la chemise débraillée, qui n'était pas le mec classe, c'était pas James Bond. Mais en fait, ça c'est Belmondo qui l'invente, et il est ce mix à la fois de Bruce Willis, parce qu'il est quand même hilarant, Belmondo.
Oui. Alors,
on se marre, et Tom Cruise, parce qu'il fait sa cascade lui-même.
Mais oui, t'as tout à fait raison. Et ce qu'il faut bien voir, c'est à quel point, à quel point le Belmondo et ce film-là, et puis ce qu'il y accomplit, c'est devenu un emblème, et c'est venu un petit peu parasiter plein de logiciels hollywoodiens. Si au début de Casino Royale, la version, le premier film de James Bond avec Daniel Craig, t'as toute cette scène de parcours dans un immeuble en construction, ça vient évidemment de L'Homme de Rio. Rappelez-vous qu'au début, James Bond, Sean Connery, attention, non pas que ce soit pas bon, mais les tout premiers James Bond, il court pas tant que ça. Il a plein de gadgets, il y a des explosions, mais c'est pas quelqu'un qui va tant que ça mouiller la chemise. Il est en smoking, il a la classe, il sort un petit flingue, il met deux coups de manchette dans des nuques et c'est tout. Et c'est effectivement, t'as raison, c'est Belmondo qui vient totalement faire péter ces règles-là, quoi.
Après, il y a un truc que je trouve vraiment joli aussi, c'est que on parle beaucoup des cascades de Bébel et en même temps c'est un peu ça qui fait le charme du truc, et on parlait aussi du côté un peu Tintin. Je trouve qu'il y a une fusion des deux qui est hyper réussie. Tu l'évoquais tout à l'heure, Emilio, je voudrais juste revenir deux secondes dessus. On a 3-4 personnes qui ont écrit le scénario. Donc, on a De Broca qui a participé. On a Ariane Mnouchkine. Ariane Mnouchkine, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être la plus grande metteuse en scène, encore en activité, je crois, du théâtre français. C'est immense.
Une
elle a créé notamment le Théâtre du Soleil en 64. Mais il y a, donc, elle apporte le côté un peu, vivant. Alors qu'à côté de ça, on a un certain Daniel Boulanger qui, lui, est plutôt écrivain et poète. Et donc, lui, ce sera peut-être plus les...
C'est le dialoguiste, c'est le dialoguiste du film.
Bah, voilà. Et je trouve ça fou, en fait, la fusion des trois, parce qu'avec Rapneau, qui est aussi sur la structure plutôt narrative du scénario, qui est, lui, un cinéaste. Donc, en fait, la fusion des trois, elle est incroyable. T'as pas l'impression, comme ça peut être le cas sur certains films, pour pas citer Tom Cruise, Mission Impossible, que... Parfois, et c'est ce que disait Alexis une fois sur le Mission Impossible, je suis vraiment d'accord avec lui, on a un peu l'impression que les films modernes actuellement, on écrit le scénario pour coller à certaines cascades. C'est-à-dire, on veut faire cette cascade, ok, donc il faut que le film arrive à cet endroit-là. Là, c'est plutôt l'inverse. On va avoir ce soldat qui revient, qui va devoir partir au Brésil, aller sauver sa meuf, sauf que sa meuf, elle est aussi assez stylée, donc ça va. Entre parenthèses, c'est le cas, et c'était il y a quand même eu à 60 piges, il faut quand même le reconnaître. Mais tout est fluide. Et t'as pas l'impression que les séquences de cascade elles sont trop longues, trop étirées pour en mettre plein la vue. T'as l'impression que tout est tellement bien millimétré que c'est juste à sa bonne place. Et en même temps, t'as pas trois cascades qui s'enchaînent non plus de manière absolument gratos. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai équilibre de toutes parts, vraiment partout. C'est vraiment sur l'écriture, je trouve ça assez fou.
Ah ouais, complètement. Et t'as raison, le personnage de Dorléac, bon, avec des limites, hein, parce qu'à l'époque, il y a des barrières qu'on peut pas faire
on
sauter.
On est d'accord.
C'est quand même une demoiselle en détresse, parfois un peu bébête sur les bords. C'est une femme qui déjà a un métier, ça a l'air con, mais pour 64, c'est déjà beaucoup. Et un métier qui est un métier passion, qu'elle veut pas lâcher. Et la tirade que je citais en introduction, que je trouve magnifiquement exécutée par Belmondo, c'est une des répliques les plus drôles du film. Bah, cette tirade, elle dit quoi? Elle dit, bah ouais, c'est pas une femme au foyer, en fait. Ce n'est clairement pas son archétype, elle ne rentre pas dans ce moule et elle n'y rentrera pas. Et c'est ce qui participe à l'iconisation du personnage. C'est-à-dire que Philippe de Broca va vraiment investir ce personnage dans la manière qu'il a de la filmer et de la diriger, en mettant en valeur cet aspect-là. On aurait pu avoir un film de divertissement, comme il y en a eu quelques-uns, hein, un film de divertissement réactionnaire, qui nous présenterait un personnage féminin qui, au début du film, est un personnage féminin qui ne veut pas rentrer dans le moule, qui ne veut pas rentrer dans les codes, et qui, à la fin, parce que quand même, le mec, il est beau, et il est talentueux, et il est sympa, et bah, elle va devenir sa femme, et puis ils vont avoir de beaux enfants, ce qui n'est pas du tout la ligne que prend le film.
Et par touche, il y a une petite lecture... un peu féministe au départ, mais pas uniquement. Il y a aussi, sur un plan, ça se joue une lecture très anticoloniale. C'est juste un plan à la fin du film où on voit des autochtones, des indigènes au milieu de la forêt amazonienne. Voilà, c'est avec des bulldozers qui passent. Voilà, c'est juste un plan, mais on comprend. Il y a ce plan-là. Et il y a une phrase, moi, que le méchant, dont on ne dévoilera pas l'identité, il dit une phrase, et ça, c'est ma lecture des puissances de l'argent, en tout cas. Il dit « Toutes les réussites exigent le crime pour en arriver à la puissance. » Voilà, c'est juste des petites touches. C'est pas lourdingue, mais un petit peu de féminisme par là, un peu de dénonciation des pouvoirs de l'argent,
du colonialisme. Et c'est très bien écrit.
Et voilà, et en fait, ça se suffit. Il n'a pas besoin de prendre son gros surligneur pour dire « Regardez, ça suffit. »
Bah c'est pas rien que De Broca ait réalisé beaucoup plus tard, hein, dans les années 90, une adaptation du Bossu, dans laquelle on a quand même un personnage de prolo illettré joué par Daniel Auteuil, qui déjà est le héros du film, Lagardère, et qui va littéralement tout le long du film dessouder les bourgeois, quoi. Mais vraiment, il a choisi Fabrice Luchini pour incarner le grand méchant du film. C'est le plus grand rôle de Fabrice Luchini à mes yeux. Il est extraordinaire.
Ouais, il est incroyable.
Il est extraordinaire. Il est à la fois hilarant et glaçant tout le long du film. Vraiment, c'est une performance dingue. Et vraiment, on a une espèce de peinture de la bourgeoisie décadente, vicieuse, perverse. Et en face, on a un mec du peuple qui n'a aucune possession, qui est un gitan itinérant et qui a une noblesse et un code de l'honneur et un courage qui dépasse l'entendement. Donc, je pense qu'effectivement, De Broca, il y a clairement dans son cinéma, il porte un regard clairement de gauche dans les limites imposées par son époque et par le système de production du cinéma aussi. Mais oui, clairement, c'est palpable. Un dernier mot pour conclure peut-être sur L'Homme de Rio. Si vous deviez citer un argument qu'on n'a pas déjà cité pour donner envie aux gens de découvrir le film, ce serait quoi?
Bah soudainement, OSS 117.2, ça devient beaucoup moins original.
Ah bah oui, évidemment.
Pardon, mais encore une fois, j'ai découvert il y a deux jours, donc vraiment ça m'a sauté aux yeux.
Toi, Emilio.
Et bah, soudainement, Steven Spielberg, ça devient beaucoup moins original.
Waouh,
je déconne, c'est juste pour placer l'anecdote.
Rassieds-toi, Alex, calme-toi.
Lâche-moi, là. c'était juste pour placer l'anecdote que Steven Spielberg a envoyé une lettre à Jean-Paul Belmondo pour lui parler de sa carrière, dans lequel il dit qu'il a vu 9 fois ce film.
Mais tu sais voilà. qu'on en a parlé, c'est le film qui lui a servi d'influence esthétique pour Indiana Jones, mais c'est plus que ça, c'est que quand les gens, certains critiques en tout cas, ont vu Indiana Jones, ils ont reconnu qu'il y avait une certaine parenté avec le cinéma de Broca, en particulier avec ce film-là, et du coup, ils ont dit, bah, on dirait un peu Tintin, Spielberg ne connaissait pas Tintin à l'époque. Et c'est donc indirectement, par l'intermédiaire de L'Homme de Rio, qu'il a découvert l'univers de Tintin, qu'il a finalement adapté en 2011 dans ce chef-d'œuvre incompris qu'est Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne.
C'est vraiment incompris, les gens n'aiment pas ce film ?
C'est un bide.
Voilà. Oui, mais un peu réhabilité depuis, non ?
Je l'ai revu il y a un mois, il a quand même pas pris une ride. Hein.
Ah, mais c'est génial, hein. c'est très peu commenté, alors ah, que ouais. c'est probablement dans les 10 plus grands films qu'il ait jamais réalisé. Okay. Simon ?
Bah, moi, ce serait la photo d'Edmond Séchant. Moi, je fais pas partie de ceux qui considèrent que la pellicule, c'était mieux avant. Néanmoins, je considère qu'elle a... Non, mais si, parce que...
Moi, je le dis. Alors, faut faire quelque chose du numérique. Mais,
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, on peut évidemment faire du grand cinéma avec du numérique. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. En tout cas, il n'y a pas de débat a priori. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas seulement sur de la pellicule, on est sur, techniquement, technologiquement, des pellicules, des traitements de la pellicule et du matériel qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, on ne saurait probablement pas aujourd'hui refaire la photo de Séchant pour L'Homme de Rio. Et c'est frappant. Ouais. Si vous le regardez dans une bonne copie...
Couleurs, quoi.
Voilà, les couleurs sont ahurissantes. Vous n'avez peut-être, si vous êtes parmi les plus jeunes à nous écouter, vous n'avez peut-être jamais vu de pareilles couleurs sur un écran, sans déconner, vraiment. Voilà, moi, si j'avais un argument, c'est ça. Regardez ce film parce que vous allez voir des trucs que vous n'avez jamais vus.
Et c'est parfait que tu dis ça, puisqu'on en parle sachant qu'il ressort en 4K.
Et oui, il ressort en Blu-ray 4K aux éditions Coin de Mire. Moi, je l'ai vu en version Blu-ray standard. Elle est déjà de très bonne facture.
Très impressionnante, je suis d'accord.
J'ai très, très hâte de découvrir la version 4K. C'était donc L'Homme de Rio de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Françoise d'Orléac et Adolfo Celli. Et vous, êtes-vous plutôt L'Homme de Rio ou Simon Rio?
Ah mais enfin,
dans les commentaires, je suis content que
personne.
J'avais trop peur que quelqu'un m'évente la vanne.
Ça fait 40 minutes que j'y pense, mais je trouve pas du tout le moment de la placer.
De la chance, mais moi, on l'a fait pendant tout le collège, donc c'est je me disais genre c'est tellement agréable que personne la fasse.
Voilà.
Je veux te dire rien. Non,
tu croyais échapper. C'est-à-dire
quand t'étais pion au collège en 64.
Oui, évidemment. J'ai eu un prof d'histoire qui s'appelait Monsieur Maltaverne, ce qui ne s'invente pas. Et Monsieur Maltaverne se trouvait incroyablement rigolo 2 années d'affilée. À chaque cours d'histoire, quand je levais la main, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Quand je levais la main, il chantait Si tu vas à Rio. Mais il chantait 2 refrains de couplet, quoi.
C'est long.
C'est long.
Allez, on passe à la suite. On a tout essayé pour lui faire comprendre que c'était une mauvaise idée. Mais que voulez-vous, les psychologues vous le diront. On ne sauve pas une personne qui ne veut pas être sauvée. Arthur, tu as poursuivi ton marathon des Palmes d'Or.
Ah oui, c'est vrai.
En prévision du Festival de Cannes, parce que t'es complètement débile. Quels sont les films les plus marquants que tu as vus ces derniers jours? En plus, on a sauté un mardi.
On a sauté un mardi, donc du coup...
T'as du stock.
Depuis l'épisode que vous avez entendu il y a maintenant 2 semaines, à peu près, j'ai dû en mater une grosse vingtaine.
Pas d'Ipan.
J'ai vu d'Ipan.
Oh putain.
J'ai découvert d'Ipan. Je ne parlerai pas d'Ipan, c'est extrêmement gênant. Ah si, attendez, je voulais juste vous dire un truc. Donc moi, j'ai découvert des trucs. Effectivement, le documentaire de Cousteau, Le Monde du Silence, c'est un peu compliqué de voir effectivement comment on trucide des animaux pour en faire amener d'autres, etc. C'est un peu vieilli, mais par contre, les images sont sublimes. Non, j'ai un film que moi, je pensais adorer et j'ai été plus que déçu, j'ai été dégoûté, c'est M.A.S.H.
Et je te l'avais dit, ça a beaucoup
vieilli. Le film de Robert Altman.
Moi, je trouve ça super, mais c'est pas aimable.
Le propos politique, il est d'une misogynie, mais hardcore.
Ah bah, un peu.
Un peu.
Le cinéma américain des années 70, gars. Hein.
Moi, j'ai pas réussi à aller au-delà un quart d'heure.
Cinéma américain des années 70, j'aime beaucoup Michael Cimino, vous le savez. Michael Cimino, il est un peu raciste sur les bords. Hein. C'est un cinéma particulier, hein, le cinéma des années 70. Ça passe ou ça casse. Bah... Et M.A.S.H., tout particulièrement. Ah,
M.A.S.H. c'est dur. Mais bon, je vais vous épargner les films que j'ai vraiment pas aimés. C'est pas très intéressant. Non, moi, il y en a plusieurs qui m'ont séduit. Je vais aller un peu crescendo. Juste avant d'aller voir Immaculé, quelques jours, heures, je ne sais plus quelle est la temporalité de ce podcast. Le jeudi 21 après-midi,
okay.
J'ai vu un film qui s'appelle Marty. Marty,
c'est très bien, Marty.
De Delbert Mann. Je connaissais pas du tout ni le cinéaste, ni cette Palme d'Or de 55, si je me trompe pas. Pouah. C'est trop beau.
Et je crois que c'est Wildside qui l'a ressorti en Blu-ray il y a 4 ou 5 ans.
Waouh. Ça, je m'y attendais pas. Grosse chialade. C'est l'histoire d'un mec qui a 34 ans. Tout le monde lui dit, mais gars, quand est-ce que tu vas finir par te marier, avoir quelqu'un? Et il tombe sur une femme qui en a 29 et à qui on dit tout le temps la même chose. Et les deux vont se créer une liaison qui est hyper douce et hyper simple. Et tout est très simple. En même temps, le film raconte plein de choses sur la solitude et à quel point on te bouscule à faire les choses, mais quand les choses se bousculent, bah, d'un seul coup, on n'aime plus trop. C'était mieux quand même quand c'était plus fixe avant, plus stable. Enfin bref, je me le suis pris en pleine poire celui-là. Tu parlais, Simon, l'épisode précédent, je crois, du Guépard que j'ai découvert aussi, qui est un sacré morceau. Alors, je m'attendais à peut-être une vraie maestria de mise en scène, mais je pense qu'en termes d'écriture, c'est exemplaire, c'est exceptionnel.
Je préfère le Jaguar avec Patrick Bruel, mais bon.
Merci d'avoir. Elle est
merci,
trop bien.
Merci, Emilio. Elle était tendue sur un plateau en argent. Dans les films j'aimerais parler de films un peu moins connus parce que bon, oui évidemment La Dolce Vita, oui évidemment Paris Texas. Non, dans celui que je m'attendais vraiment pas à me prendre en pleine poire, il y a une aussi longue absence d'Henri Colpi qui m'a terrassé. J'ai pas du tout vu ça venir. L'histoire de Thérèse qui tient un café et qui fait le deuil de son mari qui a disparu depuis 16 ans. Et puis arrive un SDF dans le village et elle est persuadée que c'est lui. Et c'est peut-être lui. Ou peut-être pas. C'est bouleversant. C'est écrit en 61. C'est d'une finesse. C'est d'une justesse. Et surtout, il y a une espèce de rythme un peu lent auquel je suis pas forcément habitué pour le cinéma français des années 60. C'est pas vraiment la nouvelle vague non plus. C'est un peu du cinéma de papa. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus tenu et beaucoup moins... je sais pas, c'est pas des débits de dialogue, c'est beaucoup plus sur cette Thérèse qui va la regarder longuement. Enfin bref, franchement, une si longue absence, ça a été une très grosse claque. Et puis, j'avais entendu un peu des avis discordants, différents, des gens qui trouvaient que c'était une forme d'exotisation, blablabla. Bla, bla. Moi, j'ai trouvé le film incroyable. J'ai vu Black Orpheus, Orfeo Negro de Marcel Camus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ce podcast, hein. Vous savez que j'aime la bossa nova plus que tout. C'est le film qui va faire...
Ça, c'est parce que t'aimes passer beaucoup de temps dans les ascenseurs, non?
Mais tu as un mépris pour ce genre musical qui est désespérant.
Je ne m'en cache pas. Sur vous.
Non, c'est liste.
Oui, je sais pas, une excuse.
J'assume.
Enfin, monsieur, mais vous êtes un nazi. Bah, je ne m'en cache pas.
Tout de suite, le raccourci, quoi. Ça va, ça m'ennuie, la bossa nova.
Baisse ce bras tendu, s'il te plaît, Alexis.
Aïe. Non, c'est une relecture du mythe d'Eurydice, mais basée à Rio pendant le carnaval. C'est sublime. Vraiment, c'est sublime. Les couleurs sont magnifiques. De ce que je lisais, je crois que c'est un des premiers films qui a exploité à ce point-là la couleur de cette manière-là. Non, vraiment, c'est incroyable. Et puis vraiment, c'est le film qui a... Tu vois, on parlait il y a quelques minutes de L'Homme de Rio. Jusque-là, le Brésil, dans le cinéma français, on ne connaît pas. Et là, on a cette ville de Rio qui est sublimée, ses habitants qui sont sublimés. C'est ce qui lui est reproché, hein, le côté un petit peu regardé, un peu comme ces gens exotiques qui sont beaux. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Et je terminerai un peu, parce que je pourrais faire encore long, par un film. J'explique pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop comment expliquer ce que j'ai vécu. Si vous me suivez sur Letterboxd, vous savez que la note ultime de 5 étoiles, je la mets assez rarement, hein, comme en fait beaucoup de gens, parce que des films qu'on considère quasi parfaits, il n'y en a pas tant. Moi, je crois que j'en ai quand même une grosse centaine, mais voilà, sur 3000 films, ce n'est pas non plus énorme. Je me suis pris le verre assez à cool dans la gueule, mais d'une force.
Ah, Oncle Boudmi.
Oncle Boudmi. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Une sieste ? T'as fait de beaux rêves ?
Non. Non, je sais que...
Ah non,
Nico...
en plus j'adore le film, c'est vraiment pour le plaisir de dire une connerie.
Ouais, parce que j'allais dire, je sais que Nico est de mon côté. Oncle Boumi, Palme de 2010.
Palme de Tim Burton.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et très surprenant quand on y pense, mais en fait, au final, je suis pas tant. Je suis bien incapable de vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti. Je suis dégoûté de l'avoir découvert sur mon ordinateur. Vraiment, j'aurais aimé le voir en salle.
J'avais réussi à pas faire pause toutes les 5 minutes ou pas?
Mais non, pas du tout. J'étais happé et j'ai même vécu le truc inverse de ce qui... Parfois, je regarde un film Immaculé que je vais voir en salle. Toutes les 5 minutes, je me dis, bon, ça fait combien de temps? Oh putain, il s'est passé que 5 minutes. Enfin, ça, c'est cool, c'était l'inverse. J'étais hypnotisé par ce que je voyais. Et d'un seul coup, il change de manière de filmer, de concevoir ses images dans des séquences, parce qu'en fait, c'est vraiment rythmé en termes de... Vraiment de séquences, c'est ça. Hein. D'un seul coup, on se retrouve dans un conte. Avec notamment une princesse qui a couché avec un poisson. Et puis la séquence d'après, c'est un truc à moitié réaliste dans une cave hyper étouffant. Et je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc voilà, pour tous les gens qui sont comme moi, qui avaient eu un souvenir un peu douloureux de Memoria, parce que Memoria, il fallait s'y accrocher. C'était...
C'est ma plus belle sieste de Cannes 2021.
Bah moi aussi, et Sophie aussi, je crois.
Oui, oui.
Toi aussi ?
Ah non, mais moi j'ai pas vu moi.
Ouais. Memoria, c'était pas simple, parce que je pense que Memoria, il fallait déjà connaître le cinéma de Veracetta Cool. Moi, je suis entré par cette porte-là, c'était pas la bonne. J'aurais dû entrer par Oncle Boudmi. J'aurais quand même beaucoup plus apprécié Memoria, je pense. Donc voilà, si jamais vous avez un peu peur d'Oncle Boudmi, faut tenter l'expérience. Vraiment, je vous jure. J'ai jamais vu ça. J'ai passé 1h30, je crois, non, peut-être un peu moins, mais plus d'1h15 à lire sur le film après, à lire des analyses, à lire des critiques. Ça fait longtemps que j'avais pas besoin de nourrir ça à ce point-là. Donc voilà. Il me reste encore quelques palmes, hein, mais je suis pas sûr d'en avoir beaucoup qui peuvent dépasser ça. Cela étant dit, ça reste pour l'instant pas ma palme préférée, puisque je vais pas vous spoiler ma palme numéro 1, je vous le dirai à la fin de mon marathon. Mais elle est quand même pas loin, je crois qu'elle est dans le top 5.
C'est quoi la prochaine que t'attends le plus là?
Je dis ça dans 30 secondes, laisse-moi regarder, parce que j'ai un Excel avec mes listes et tout machin là.
C'est un fou, il est malade, hein. Je te jure, il a un problème.
Celle que j'attends.
Le mec fait des Excel pour le loisir.
J'aimerais que le festival soit annulé juste pour qu'il soit dégoûté.
Et bam, vrai, Covid.
Non, il m'en manque plusieurs.
Covid 24.
Il m'en manque plusieurs qui sont pas mal. Il manque The Third Man de Carol Reed.
Ouais,
il manque Blow Up.
C'est chiant comme la pluie, Blow Up.
Attends, ah ouais alors,
c'est bien. Il me manque Missing de Costa Gavras, que j'ai très envie de voir. Mission.
Alors, Mission, c'est. T'es là, tu fais genre. Ok, c'est pas mauvais, hein, mais.
Ouais, Sous le soleil de Satan.
Ah ouais.
Et après, en vrai. Et en vrai, Tree of Life.
Ah.
Oh, ouais. Les gros le dinosaures.
Mais Tree of Life, je suis dans encore un autre délire, excusez-moi, après j'arrête, hein, mais. Souvent, je fais des marathons de cinéastes et j'aime bien les voir dans l'ordre. Et j'avoue que ça va un peu me faire chier de ne pas avoir vu La Ligne Rouge et Le Nouveau Monde avant de voir celui-là. Donc je pense que
La Ligne Rouge.
Le Nouveau Monde.
Les deux.
Enfin, La Ligne Rouge et Le Nouveau Monde.
Mais ouais. Tu vois, ça me ferait chier de passer.
Ah non, j'ai confondu Le Nouveau Monde avec le film qu'il a fait avant La Ligne Rouge, là, avant de prendre sa pause de 25 ans. Là,
Oui,
Les Moissons du Ciel.
Mais c'est exceptionnel, Les Moissons du Ciel. T'as un problème ou quoi?
Je déteste.
Tu penses pas? Ah ouais?
Je m'ennuie à mourir
devant. N'importe quoi. Mais bref, ça me ferait chier de passer des Moissons du Ciel à d'un seul coup Tree of Life sans comprendre l'évolution du cinéaste. Donc je pense qu'en plus des 38 palmes qui me restent, je vais me faire La Ligne Rouge.
Allez.
Et Le Nouveau Monde. Voilà.
Ça y est, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain ou bien demain si vous écoutez cet épisode mardi. C'est vrai que c'est compliqué maintenant la temporalité.
C'est pas simple à comprendre.
Simple. Pour le tout premier épisode de Chez Josiane, la nouvelle émission à Casse Plus, créée et présentée par Nicolas Martin, exclusive pendant 15 jours et puis disponible ensuite pour tout le monde. Et puis bah sinon, on se retrouve vendredi pour parler des nouvelles sorties au programme Un gros roi, un gros ours et des gros camions. Allez, bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.